Bonsoir, il est 18h, le moment de votre émission Une heure en Palestine, comme tous les mercredis sur Radio Galère 88.4. Émission animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité et BDS Provence qui anime l'émission. Je suis avec Jean-Yves.
Bonjour Bernard.
Bonsoir Jean-Yves. Et je suis Bernard. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement, www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter nos pages Facebook, Palestine 13 et BDS Provence. Vous pouvez aussi nous écrire à asso.palestine13@gmail.com et bdsprovence@orange.fr. Merci à Sidi qui assure, comme toujours, la technique. Alors Jean-Yves, maintenant, je vais te passer la parole pour que tu nous racontes une histoire
qui s'est passée à Montpellier.
Voilà, qui s'est passée à Montpellier et qu'on pourrait nommer « Deux poids, deux mesures ».
Voilà. Alors en fait, ça s'est passé à la fin du mois de juin de cette année, et c'est un acte administratif qui a été établi par le préfet de l'Hérault. Donc le 24 juin 2023, l'AFPS et BDS à Montpellier avaient prévu de faire un rassemblement pour la défense de la cause palestinienne. Et donc le préfet a élaboré un arrêté préfectoral qui interdit cette manifestation, rassemblement pour la défense des thèses minoritaires en France sur la cause palestinienne, à savoir l'antériorité du peuple palestinien et les réalités de l'apartheid. Et la raison qu'il a invoquée pour dire qu'il risque d'y avoir trouble à l'ordre public, etc., c'est que ça se passait un jour de Shabbat. Alors, je ne savais pas qu'effectivement, le jour de Shabbat, on n'avait pas le droit de manifester dans une république laïque. Et de la même façon, le lendemain, le 25 juin, il y avait une manifestation prévue, donc qui est contre la journée de Jérusalem, qui est célébrée une fois par an par la ville de Montpellier. Et pour les mêmes raisons, parce que c'était contre... soi-disant, enfin, il y avait des risques de troubles à l'ordre public, donc il l'a également interdite. Alors la laïcité est bien mise à mal en ce moment, hein, puisque l'État veut se mêler de tout. Macron, il va communier à la messe du pape.
Non, il a dit qu'il n'irait pas, hein, quand même, n'exagère pas.
Il n'a pas communié, il va quand même à la messe tant que président de la République.
Oui, mais
ce n'est pas son rôle.
C'est pas son rôle, mais il y a quand même un artifice qui a son importance, c'est que le Vatican est aussi un État. Donc on pourrait discuter à perte de vue pour savoir s'il reçoit le chef d'État ou le chef religieux.
À mon avis, c'est les... Le pape, il ne fait pas une visite officielle en France, mais il fait une visite à Marseille, et il va parler des migrants que, par ailleurs, Macron laisse mourir en Méditerranée. Quoi.
Non, et puis c'est surtout l'idée que un chef d'État vient pour dire une messe.
Ouais.
Voilà, ça c'est
enfin,
évidemment...
Ça, depuis Sarkozy, et même avant, ils font tout ça, ils vont voir le pape.
De Gaulle.
Ouais. Mais De Gaulle, peut-être, c'était qu'il était vraiment croyant, puisqu'il assistait à la messe tous les dimanches.
Oui, il était croyant, oui. Mais bon,
voilà.
On peut avoir... Il n'est pas allé, il n'est pas obligé d'aller dans, au Tédéum de Notre-Dame de Paris.
Tout à fait. Voilà, alors je te repasse la parole, que tu m'as coupée, hein, c'est pas grave.
Ah, pardon.
Tu me... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et donc, tu vas nous parler du Festival du film de Jérusalem.
Voilà. Au mois de juillet a eu lieu à Jérusalem un festival de cinéma qu'on peut considérer comme faisant partie de la Hasbara, c'est-à-dire le gros département de la propagande israélienne pour se faire des amis. Alors imaginez les cinéastes français ou les cinéastes européens ou du monde entier à qui on dit « vous venez passer 3-4 jours à Jérusalem pour présenter votre film », tout le monde piaffe d'envie. Alors, cette information concernant le festival du film de Jérusalem, qui s'est tenu en juillet dernier dans cette ville, cette actualité a été représentée par une action d'éclat de plusieurs cinéastes, dont Jane Campion, réalisatrice néo-zélandaise, qui a notamment remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes pour La Leçon de piano. La cinéaste basque Estibaliz Urrezola Solaguren et d'autres cinéastes ont demandé que leur film soit retiré du festival, qui est en partenariat avec le ministère israélien de la culture. Et on sait quel est le système de ce ministère de la culture, qui est vraiment un ministère de combat, hein, on peut le dire. Je me rappellerai toujours de la ministre à un festival de Cannes qui avait une robe très large, évasée, avec imprimés sur le bas de la robe.
Le mont du Temple.
Voilà, Jérusalem.
Ce qu'ils appellent le mont du Temple.
Voilà, exactement.
C'est Ayelet Shaquette qui avait fait ça.
Et voilà. Alors, au moins 3 autres réalisateurs des États-Unis et du Royaume-Uni l'ont également fait, c'est-à-dire qu'ils ont retiré leur film de ce festival en disant « on ne veut pas que notre film... » Même s'ils n'étaient pas là, ils ont dit « vous ne passez pas nos films, vous les retirez ». Le scénariste, coproducteur et réalisateur primé James Shemus, cofondateur et ancien président-directeur général de Focus Features, a réagi à la nouvelle. L'année dernière, Emma Watson a parlé au nom d'un cœur grandissant de travailleurs culturels internationaux en faveur des droits des Palestiniens lorsqu'elle a affirmé que la solidarité est un verbe. Cet été, alors que le monde regarde le gouvernement israélien intensifier ses attaques et sa dépossession des résidents palestiniens de Jérusalem, les cinéastes prennent courageusement cette phrase à cœur. Mais alors, question de rigueur, y avait-il des cinéastes français et françaises en juillet à Jérusalem ? Yes, of course. Et qu'ont-ils fait ? Rien. Ils sont tous restés sur place et aucun n'a demandé le retrait de son film. C'est un comportement classique de la part des pros du cinéma français. Certains se sont illustrés, comme Robert Guédiguian, par une tonitruante fin de non-recevoir il y a quelques années. Parce que le milieu français du cinéma, qui est en relation avec des hommes et des femmes de culture en Israël, considère qu'avoir des amis, entre guillemets, de gauche en Israël, suffit à leur bonne conscience. Exemple parfait, le court-métrage de Marilyn Canto, « Faire la paix » de 2018, 24 minutes en accès libre sur Internet, dans lequel un dénommé Offer Bronstein, militant de la paix maintenant, nous décrit en commençant un débat dans une classe qui conclut, la classe, que les torts sont des deux côtés. Et lui, il accepte, hein, il opine. Et Offer Bronstein se satisfait de cette réponse. Autre réponse, que les extrémistes des deux camps empêchent la paix. Du coup, Offer Bronstein va en Jordanie, en Cisjordanie, rencontrer un homologue à lui, pas un professeur, mais je pense un restaurateur avec cravate, pour discuter de ça. Ils discutent tous les deux sur, là aussi, ce sont les extrêmes qui empêche la paix. Pas un mot sur l'occupation. Ce mot-là n'a jamais été prononcé. Le vol des terres, idem. Les assassinats, encore pareil. Ceci est le niveau de réflexion des cinéastes en France, trempés dans une bonne conscience satisfaite. Mais pour revenir au festival de Jérusalem, c'est le moment Coluche. J'ai les noms. Et c'est pas triste. Les voilà. Et leur film. Marie Amachoukeli présente Ama Gloria, un film qui est sorti en France il y a 2 semaines. Justine Triet, Palme d'or pour Anatomie d'une chute, était là aussi, rien à redire. Valérie Donzelli présente L'amour et les forêts, rien à redire non plus. Catherine Breillat pour L'été dernier, qui est sorti il y a 2 semaines, rien à redire. Une francophone québécoise, Mona Chokri, présente Babysitter, rien à redire. Nicolas Philibert présente Sur l'Adamant, rien à redire non plus. Claire Simon et son film Notre corps, rien à redire non plus. Et Philippe Garrel, Le Grand Chariot, qui est sorti la semaine dernière, pareil. C'est des gens qui considèrent qu'ils font œuvre de paix et de réconciliation quand ils viennent présenter leur film à la Cinémathèque de Jérusalem lors de ce festival qui a lieu chaque année. Voilà la bonne conscience française typique de croire encore que c'est œuvrer pour la paix que d'accepter cette invitation qui donne seulement un gros coup de main à la Hasbara, le service israélien de la propagande. Israël peut donc dire « Tout va bien, nous n'avons pas d'ennemis en France puisque même Justine Triet, Palme d'or, et Dieu sait si à la tribune du festival elle a été critique à l'égard du gouvernement Macron, donc Palme d'or, pour Anatomie d'une chute, ne connaît même pas l'apartheid que nous faisons subir à toute la population palestinienne. Ça, c'est ce que penseraient les Israéliens. C'est-à-dire qu'ils se félicitent que leur apartheid ne soit connu de personne en France. C'est formidable. Voilà.
C'est la Hasbara, il y a quand même beaucoup de pognon qui est donné par Israël. Pour justement faire la propagande Tel Aviv, ville moderne, etc. L'État qui est dans les nouvelles technologies, etc. Donc voilà, et c'est vraiment regrettable effectivement que les cinéastes et les réalisateurs acceptent ce genre d'invitation. Pourtant, ce n'est pas faute de les avoir informés, BDS agit régulièrement.
Oui, moi j'ai fait ce travail pendant le festival, je leur ai écrit à tous, tous ceux dont j'avais le mail, ou le mail de leur représentant, je leur ai envoyé un petit mot, en leur montrant, tu sais, un autre festival qui serait le contre-champ du leur, à savoir un tapis rouge dans Gaza bombardé, quand avait eu lieu ce festival de cinéma, je crois que c'était en 2014 ou 2015, que les bombardements avaient eu lieu de façon vraiment épouvantable. Ouais. Et les cinéastes palestiniens s'étaient dit « on fera quand même notre festival ». Voilà, donc je leur avais envoyé cette photo, comme le contre-champ de là où ils étaient. Ça n'a pas porté beaucoup de fruits, parce que la bonne conscience française, c'est terrible, hein, terrible. L'arrogance et la bonne conscience en France, c'est deux mamelles de la satisfaction française, surtout. Alors ça va de Macron à ces cinéastes-là. Voilà, alors maintenant, je crois que tu vas nous causer du rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des droits internationaux et des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Et ça, on peut dire que ça n'a jamais de fin, on ne pourra jamais dire que ça s'est arrêté, c'est permanent.
Alors, effectivement, toutes les semaines, il y a un site qui répertorie toutes les violations israéliennes du droit international et des droits humains, principalement dans les territoires palestiniens occupés. Et en fait, donc c'est un truc hebdomadaire, on en est au numéro 1100 et quelques. Donc ça fait très longtemps que ça existe. Et 2022, ça a été une année vraiment catastrophique pour les Palestiniens de ce point de vue-là. Et 2023 se présente comme devant être encore pire que 2022. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail, on va simplement faire voir quelles sont les violations qu'il y a eu depuis le début de l'année. Dans la catégorie violation du droit à la vie et à l'intégrité corporelle, donc depuis le début de l'année 2023, les attaques des forces israéliennes ont tué 223 Palestiniens. Parmi ceux-là, 111 civils. Il y a évidemment des gens qui portent les armes, qui résistent aux Israéliens. Donc, il y a 111 civils qui, parmi les 223 tués. 42 enfants, 6 femmes et une personne handicapée. Et parmi tout cela, 9 ont été tués par des colons. Parce que donc les colons qui ont le droit d'être armés, mais il va y avoir des milices en plus maintenant, à la suite de l'intervention de Ben Gvir, le ministre de je ne sais plus trop quoi. Et donc, il y a 2 enfants qui sont morts dans des prisons israéliennes. Voilà. Pendant ce temps, 1142 Palestiniens, dont 175 enfants, 33 femmes et 16 journalistes, ont été blessés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 1142 blessés, 175 enfants. Alors, autre violation du droit international, donc l'armée israélienne occupe la Cisjordanie, ils rasent des terres, ils démolissent des maisons, et puis ils avertissent des personnes qu'on va détruire leur maison.
Oui, et surtout, je pense qu'est toujours présente cette histoire de démolition pour cause de punition collective, voilà. À savoir que lorsque un jeune fait un attentat ou quelque chose qui ressemble à un acte qui déplaît foncièrement, mais qui ne mérite pas obligatoirement la mort, non seulement il est tué, mais en plus, Israël amène ses bulldozers pour raser la maison familiale. C'est-à-dire voilà, que ça, c'est un système qui est employé dans les pays totalitaires et dans la mafia.
Alors, c'était quand même... Israël fait ça parce que c'est les Anglais qui ont instauré ça à l'époque du mandat en Palestine. Hein. C'est eux qui ont montré la voie à suivre sur ce plan-là. Hein. Comme le vol des terres avec les lois sur les absents, etc.
Oui, mais l'État d'Israël est quand même douteux parce qu'il endosse les habits qu'on lui met.
Sans blague.
Sans problème, tu comprends? Oui. Comme il a été capable de rétablir la peine de mort pour Eichmann, après avoir jugé Eichmann, pour être sûr de pouvoir le découper en morceaux. Voilà. Toutes les lois, là, sont à géométrie variable. Hein. Et on les arrange suivant les circonstances.
Alors, depuis début 2023, les forces armées ont laissé sans abri 138 familles. Alors, famille élargie, hein, c'est-à-dire ça représente quand même 802 personnes, et parmi lesquelles 174 femmes et 354 enfants. Donc, c'est à cause de la démolition de 146 maisons par les forces d'occupation. Hein. 38 de maisons ont été démolies de force par le propriétaire. S'ils ne le font pas, ils doivent payer très cher. Et du coup, 14 ont été démolies à cause de punitions collectives. Alors, ça, c'était pour les maisons. Par contre, ils ont démoli aussi 115 autres biens civils. Alors, par exemple, des écoles, des mosquées, etc. Et ils ont délivré des dizaines d'avis de démolition en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il faut savoir que les Palestiniens construisent pour se loger, en général sans autorisation, parce que quand ils demandent une autorisation, de toute façon, ils ne l'auront pas, contrairement aux Juifs qui ont tous les droits. Les colons, ils construisent comme ils veulent, mais les Palestiniens, non. Voilà. Donc, depuis quelque temps, se sont développées les attaques de colons et les actes de représailles. Et les colons, depuis début 2023, ont mené 309 attaques contre des civils palestiniens et leurs biens. ça a fait tuer 9 Palestiniens, des dizaines d'autres ont été blessés parce qu'ils avaient été battus et jetés à coups de pierre. Des dizaines de maisons, de véhicules et d'installations civiles ont été incendiées. On se souvient qu'il y a eu un pogrom il y a quelque temps où un quartier complet a été incendié. Incitation d'Israël contre le programme scolaire palestinien et les restrictions imposées aux écoles de Jérusalem. L'alphabétisation et l'éducation, c'est une façon de résister à l'occupation israélienne. Et donc, ça fait partie des choses qu'Israël cherche à stopper. Et le 7 septembre 2023, le ministère israélien de l'Éducation a envoyé des lettres officielles aux écoles de Jérusalem-Est, menaçant de révoquer leur licence si elles enseignent le programme palestinien imprimé par le ministère palestinien de l'Éducation. Ils veulent, pour cela, imposer le programme israélien aux écoles palestiniennes.
Alors qu'ils sont en territoire occupé, hein ?
Voilà, c'est un territoire occupé, bien entendu. Le 11 septembre 2023, les forces d'occupation ont attaqué l'école maternelle Al-Aqsa de la mosquée de Jérusalem-Est occupée, et ils ont arrêté 4 élèves. Les étudiants ont ensuite été libérés à condition qu'ils n'accèdent pas à la mosquée pendant 10 jours. Voilà. Sur le problème des programmes, il y a l'Union européenne qui a lancé une étude à l'instigation d'Israël sur l'antisémitisme dans les livres scolaires palestiniens. Par contre, on ne parle jamais des livres scolaires israéliens qui présentent l'histoire à leur façon et qui justifient tous les crimes qu'ils ont commis, crimes contre l'humanité, qui ne parlent jamais de la Nakba, etc. Et qui aussi inculquent des valeurs. Les Palestiniens, c'est des terroristes, les Arabes, c'est ci, c'est là, ils n'aiment pas leurs enfants, etc. Et donc là, par contre, on ne dit rien, bien entendu.
Et puis moi, je peux te dire que dans la série Faouda, que j'ai bien décortiqué, tout Palestinien était un terroriste.
Hein. Bien sûr.
Tous.
Oui. Voilà. Alors, donc il y a eu des actes. Oui.
Oui, pardon. Non.
Il y a eu des attaques contre des lieux de culte aussi. Donc les forces d'occupation en septembre 2023 ont perquisitionné la salle de prière de la porte Al-Rama à Jérusalem, dans la mosquée Al-Aqsa. Ils ont confisqué une partie de son contenu. Et le département des fondations islamiques a déclaré que la police israélienne portant leurs chaussures, alors que dans une mosquée, on doit les enlever.
Oui, c'est-à-dire que les Israéliens violent la tradition religieuse.
Exactement.
Comme, voilà, même pas respecter la religion de l'autre.
Voilà. Donc ils ont détruit une partie du contenu de la salle de prière d'Al-Rama et ils ont saisi le reste. Mais ils ne s'attaquent pas qu'au lieu de culte palestinien, musulman, ils s'attaquent aussi au lieu de culte palestinien, chrétien, puisqu'il y a eu des problèmes à Jérusalem aussi avec certaines églises qu'ils ont investies et où ils ont fait des dégâts. Autre façon de procéder des forces d'occupation, bouclage et restriction à la liberté de mouvement, punition collective. Donc en 2023, il y a eu 4445 points de contrôle militaire temporaire établis par les forces d'occupation et ils ont arrêté des dizaines de Palestiniens à ces points de contrôle. Alors, on parle de la Nakba. En septembre, il y a eu violation du droit international par Israël, mais c'est pas au hasard, c'est-à-dire c'est encore la Nakba qui se continue aujourd'hui, puisque les assassinats, la destruction des maisons, etc., c'est tout ça est fait pour que les Palestiniens se disent bon, on en a marre de cette vie et on va partir. Oui. Mais les Palestiniens résistent et ils continuent à résister. Ils ne veulent pas partir. Il y a un bouquin, une BD qui a été écrite par Mohamed Al-Sabaneh, dont il y a eu il y a quelque temps à la librairie Transit, il a présenté son livre, sa BD. Franchement, elle est fantastique. C'est, au niveau dessin, c'est assez particulier. Et ça s'intitule « Je ne partirai pas, mon histoire est celle de la Palestine ». Donc voilà, ils ne partiront pas. Par contre, si vous voulez acheter la BD chez Transit, allez-y, je vous la recommande.
Je crois que c'est le moment de citer Hanan Ashraoui, qui est membre du Conseil législatif palestinien. Voilà ce qu'elle dit. « Nous sommes le seul peuple au monde auquel on demande de garantir la sécurité de son occupant, tandis qu'Israël est le seul pays au monde qui prétend se défendre de ses victimes. » Voilà, je crois que là, ces cinq lignes disent exactement qu'est-ce que c'est la propagande d'Israël, c'est-à-dire d'arriver à jouer, à renverser les charges de la preuve ou les rôles, de devenir la victime face à ce qu'ils appelleraient des terroristes. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même dramatique de voir que les chancelleries occidentales n'ont jamais versé de ce côté-là pour dire que c'est un peu de ça qu'il s'agit, parce que ça changerait tout. Si un gouvernement européen ou l'Union européenne reconnaissait que Israël demande de garantir la sécurité de son occupant, voilà, qui doit assurer, les Palestiniens doivent assurer la sécurité des Israéliens, alors que c'est eux qui rentrent de nuit comme de jour dans leur maison, bousculent les meubles, mettent les gens dehors, fracturent les murs des maisons pour être sûr de ne pas rater l'arrivée dans les maisons où les gens auraient pu fuir. Voilà, donc c'est vraiment monstrueux.
Mais ça, c'est en train de changer aujourd'hui. Les Palestiniens, la rue n'a plus confiance dans l'autorité palestinienne, et c'est l'autorité palestinienne qui, par la signature des accords d'Oslo auxquels il se réfère encore, assure la sécurité d'Israël. Et il y a beaucoup de Palestiniens qui se battent contre l'armée, qui résistent contre les forces d'occupation israéliennes, et qui sont arrêtés pour cela par les policiers de l'autorité palestinienne. Mais c'est en train de changer, et Abbas, aujourd'hui, il a une popularité proche du néant, quoi. Surtout quand il s'amuse à tenir des propos antisémites sur les nazis, sur Hitler et les juifs. Donc, effectivement, aujourd'hui, il n'a plus aucune... Il n'a plus aucune popularité, il n'est plus rien, quoi. C'est à se demander qu'est-ce qu'il fait encore là. Surtout qu'il n'a aucune légitimité vis-à-vis des élections, puisqu'il n'y en a pas eu depuis 2005.
Et qu'il a profité des histoires de qu'Israël mettait à Jérusalem-Est pour supprimer les élections. Oui, c'est ça le raïs, comme ils disent. Alors, je propose une pause musicale. Qui va être rempli par le trio Joubran avec la participation de Roger Waters, qui est l'ex Pink Floyd, ce que vous connaissez bien, qui vont interpréter un morceau qui s'appelle « Carry the Earth ». Thank you.
father's boys.
Voilà, merci au trio Joubran. Alors, la traduction, c'était chanté en anglais, et la traduction, c'est simplement une ode au garçon. Mon garçon, notre garçon, vos garçons. Voilà, parce que, évidemment, ce sont les garçons qui deviennent après les martyrs des Palestiniens pour les actes subis par les tirs israéliens. Alors maintenant, on va passer à quelque chose qui a été rédigé par Le Monde. C'est un entretien avec Elias Sambar qui dit « L'actuel gouvernement israélien joue la carte du désastre ». Alors je rappelle qui est Elias Sambar. Il est né en 1947 à Haïfa, en Palestine, mandataire, réfugié au Liban, puis en France. Il a été ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Il a été aussi un des négociateurs du processus de paix des accords d'Oslo. Alors, 30 ans après les accords d'Oslo, l'écrivain palestinien redoute une nouvelle Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de la population arabe d'Israël de Cisjordanie. Il est questionné par Louis Imbert, journaliste du Monde.
Donc ça, c'était dimanche...
C'était dimanche 17, oui.
Dernier.
Oui, oui, c'est tout chaud.
Et donc 30 ans après, qu'est-ce qui reste d'Oslo, finalement?
Eh bien, le processus de paix d'Oslo est mort. En 30 ans, la société palestinienne est passée de l'espoir au scepticisme, puis au rejet de ces accords. Néanmoins, il en reste des traces. Il a permis aux Palestiniens de sortir de presque un demi-siècle d'invisibilité. En 1948, lors de la création d'Israël, Israël et le monde, avec lui, ont répété que la Palestine et les Palestiniens n'existaient pas, qu'ils n'avaient jamais, en réalité, existé, et donc qu'aucune injustice n'était commise à leur égard. Oui, le fameux « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». L'obsession de ces disparus de 1948 va être de retrouver leur nom, de redevenir, entre guillemets, visible. À la veille d'Oslo, la majorité de la planète disait encore que les Palestiniens n'existaient pas. Aujourd'hui, qu'on les soutienne ou non, plus personne ne dit cela. Oslo a aussi établi que la question de la Palestine ne peut être résolue sans le peuple de Palestine. On oublie que nombre de participants rêvaient que les Palestiniens, accusés de compromission avec le pouvoir de Saddam Hussein, après que l'Irak a envahi le Koweït en 90, ne soient pas représentés à la conférence de Madrid, prélude aux accords d'Oslo. Mais il a bien fallu que la délégation palestinienne atterrisse à Madrid en 1991. Pour que le projet d'une solution au conflit israélien-palestinien et d'une remise en ordre de la région sous la houlette des États-Unis ne se trouve pas bloqué.
Juste une remarque à propos de la conférence de Madrid et des accords d'Oslo. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'historiens qui disent « mais la conférence de Madrid avec des représentants palestiniens et israéliens avançait vraiment dans le sens d'une reconnaissance du droit des Palestiniens. » Et du coup, Israël a pris peur et s'est attaché à Arafat. Et ils l'ont convoqué, entre guillemets, à Oslo, et ils ont passé ces accords qui sont, pour les Palestiniens, rien du tout, parce que la seule chose que les Palestiniens doivent faire, c'est assurer la sécurité d'Israël, comme on le disait tout à l'heure. Par contre, il n'est pas question de la reconnaissance de leur État, ni de la question de Jérusalem, rien du tout, quoi. C'était vraiment... Arafat, il s'est fait entuber, quoi, pour parler vulgairement. Hein. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la solution des deux États, qui est sortie des accords d'Oslo, est-ce qu'elle est encore viable, finalement, aujourd'hui?
Alors, Elias Sambar répond, « Beaucoup prétendent que la non-viabilité prouve que le choix de la solution à deux États était au départ une erreur. C'est faux. » Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de l'appliquer. Il y a les colonies à démanteler. Près de 700 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, entre 250 000 en 93, contre 250 000 à 1993. Il y a le fait accompli imposé par la puissance occupante et le constat que des puissances extérieures, les États-Unis par exemple, n'imposeront pas une solution. Une question émerge alors, émanant des inquiétudes actuelles des Palestiniens. Est-ce qu'un autre transfert est possible? Tel est le terme utilisé pour nommer l'expulsion de près de 850 000 Palestiniens sur une population totale de 1 400 000 âmes en 1948. Beaucoup en Israël, au gouvernement actuel et dans les colonies, rêvent d'un transfert d'une nouvelle Nakba. Voilà, là je crois que, oui, ce qu'on dit souvent, Jean-Yves, c'est que la Nakba ne s'est jamais arrêtée, en fait, parce que chaque fois qu'ils peuvent éjecter des Palestiniens, ils le font. Mais là, on serait devant un système radical et massif qui ferait que les ministres de tout poil, là, d'extrême droite civile et d'extrême droite religieuse, n'ont que ça en tête.
Donc... Oui, bien sûr, mais finalement, aujourd'hui, c'est pas comme en 1948 ou en 1967, puisqu'il y a eu une deuxième vague d'expulsion en 1967, après la guerre des six jours, mais aujourd'hui, il y a quand même une information qui circule à la vitesse grand V, et Israël, donc, qui veut paraître un État démocratique et respectueux de tout un tas de trucs, aujourd'hui, je ne vois pas comment ils pourraient se permettre d'expulser, même si finalement ils le font aujourd'hui à bas bruit, c'est-à-dire qu'ils font déjà une expulsion quand ils démolissent les maisons, quand ils déplacent des bédouins du Negev dans des cités dortoirs. Finalement, ils le font, mais ils le font suffisamment doucement pour que personne, ah mais c'est pas très grave, c'est quelques bédouins, etc. Finalement, personne ne réagit. Une Nakba, un transfert massif, par contre, aujourd'hui, je vois pas très bien comment ils pourraient faire. Par contre, c'est quoi la réponse de Elias Sambar sur cette crainte? Est-ce que le scénario est réaliste d'une expulsion?
Réaliste, il est plutôt extrêmement compliqué à accomplir. En 1948, l'expulsion s'est passée à grande vitesse, le temps que le monde ne réagisse pas. Surtout, elle ne paraissait pas exceptionnelle. L'Europe était elle-même noyée sous le flot de réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. La terre entière avait aussi et surtout le sentiment qu'une injustice absolue avait été commise à l'égard des Juifs, qu'il fallait leur trouver une solution, une forme de victoire réelle contre la barbarie nazie. Nous ne sommes plus dans cette conjoncture. Les Palestiniens sont visibles et contrairement à 1948, ils ont compris quand ils sont partis forcés. Nos parents étaient convaincus que ce n'était que l'affaire de quelques semaines et qu'ils reviendraient. 70 ans plus tard, les Palestiniens savent « quand on part, on ne revient pas ». Ils ne bougeront pas, même s'ils subissent des massacres.
Oui, voilà. C'était Mohamed Sabadé qui dit « je ne partirai pas ».
Oui, bien sûr.
Palestine et ma terre.
Mais quand même, touchons du doigt un truc qui va être dit après. La solution à deux États n'est pas possible. Certains Palestiniens, et même, je pense, Elias Sambar le dit, un État fédéral. Et moi, j'ajoute un État fédéral d'apartheid. Donc, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être totalement avalisées et acceptées par la communauté internationale.
Tout à fait.
Tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas d'État palestinien, mais il y a un État fédéral avec des checkpoints à tous les coins de rue. Et vous vivez comme ça et vous la fermez.
Donc du coup, Oslo est mort, mais ça date de quand là ?
Mais là, c'est toi qui parles. Hein. Quand Oslo est-il mort ?
D'accord. Donc, en fait, Elias Sambar dit c'est une mort lente, il n'y a pas eu de crise cardiaque. Hein. C'est une agonie ponctuée de tentatives de réanimation. Il dit « La mort s'est installée à partir du moment où le peuple de Palestine n'y croyait plus, à partir du moment où la machine des négociations s'est mise à tourner dans le vide. Il devait y avoir des négociations dans les 5 ans, et puis aujourd'hui, on est toujours au même point. Mais alors, à qui profite l'échec d'Oslo ? Les perdants ne sont pas les seuls Palestiniens. Les deux États auraient permis aux Israéliens d'avoir un voisinage réconcilié. Finalement, aujourd'hui, ils se retrouvent en compagnie d'un peuple à qui on a dénié tous ses droits. Les Palestiniens sont là, ils vont de plus en plus revendiquer l'égalité, entrer dans la logique d'une citoyenneté. Voilà.
Mais tu sais, je suis encore sous le choc d'une conférence qu'on est allé voir à la mairie d'Aix-en-Provence, qui était une conférence tenue par un spécialiste des questions de distribution d'eau en Israël, évidemment pour les Palestiniens. Et évidemment, ils leur volent leur eau, c'est pas du tout égal. Mais il parlait même pas des Palestiniens, il disait nos voisins, tu vois. Ce qui veut dire, quand tu parles d'un occupé en disant mon voisin, c'est comme si c'était presque un ami. Mon voisin, puisqu'il y a des fêtes des voisins partout chaque année. Mais ce n'est pas du tout le cas. Heureusement, Pierre Stamboul était dans la salle pour expliquer à quel point l'eau était volée en aval et que après, on prenait des bidons ou je sais pas, des réserves et que cette eau leur était vendue très cher.
Mais c'est aussi le résultat des accords d'Oslo, puisque les accords d'Oslo ont dit c'est Israël qui gère administrativement la Cisjordanie, même si ce n'est pas l'intégralité. Et parmi ceux qui gèrent, il y a tout ce qui concerne la terre, aussi bien la terre pour construire une maison. Ils donnent très rarement des permis de construire aux Palestiniens, et les Palestiniens n'ont pas le droit de creuser des puits. Il y a 2 mois à peu près une histoire parce que des Palestiniens avaient creusé un puits. Israël, les forces d'Israël avaient détourné l'eau de leur puits, donc ils n'avaient plus d'eau. Ils en ont creusé un autre un peu plus loin. Et Israël est arrivé un matin avec un camion à béton, là, une grosse toupie, et ils ont rempli de béton leur puits, parce qu'ils n'avaient pas l'autorisation ils n'avaient pas demandé l'autorisation. S'ils avaient demandé, ils n'auraient pas eu.
Ils n'avaient pas demandé l'autorisation de pouvoir boire un peu d'eau.
Voilà. Et les Palestiniens, globalement, ont droit à 4 fois moins d'eau que les colons israéliens qui vivent à côté, avec des piscines.
Pavanent dans leurs piscines au sommet des colonies, au sommet des collines des colonies. pendant qu'en bas, eux, n'ont pas d'eau. Alors, je vais faire comme si tu étais Elias Sambar, et je te dirais, que vous inspirent les appels du président Mahmoud Abbas à une solution à 2 États ?
En fait, il y a toujours eu la conviction qu'il fallait 2 États. Ce souhait est juste, mais aujourd'hui, ça ne peut pas se concrétiser, parce qu'il y a une majorité de la population des territoires qui souhaite qu'ils quittent le pouvoir parce qu'elle rejette cette autorité palestinienne qui est née des accords d'Oslo. Il faudrait que Israël, alors ça c'est ce que demande Mahmoud Abbas, il faudrait qu'Israël autorise des élections à Jérusalem-Est. On voit à quel point les Palestiniens ne sont pas maîtres de leur destin, puisque même pour élire des représentants, il faut qu'ils aient l'autorisation des Israéliens. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où ils ont quand même fait des élections et Jérusalem-Est a voté par correspondance, etc.
Mais que pensez-vous des appels sans fin de la France et de Washington à préserver une solution à 2 États ?
Bon, ça, c'est le mantra des pays occidentaux. La plupart des pays qui appellent à cette solution sont des amis. Ils appuient une position juste. Ils disent aussi cela, faute de mieux, en pensant conjurer le pire. Ils ne sont pas naïfs, cependant. Ils savent que ce n'est plus jouable, mais ils continuent à le dire un peu comme une incantation pour éloigner le mauvais sort. C'est aussi une manière de constater leur impuissance ou un manque de courage à forcer une solution juste au conflit. Nous approchons inexorablement du moment où la situation va gravement se détériorer.
Craignez-vous ?
Donc, Elias Sambar répond, à force d'abattre des jeunes gens, à force d'entrer et de réprimer dans les camps de réfugiés dans les villes, on l'a vu encore la semaine dernière à Jénine, et il y a le mois dernier aussi, toujours à Jénine, où ils ont balancé donc, dans un camp de réfugiés, qui est quand même un camp avec des maisons très rapprochées les unes des autres et tout, ils ont balancé des missiles avec des hélicoptères. À force de piller des terres et à force d'imposer des lois iniques, à un moment donné, l'explosion sera là inéluctable. Plus grave, je pense que l'actuel gouvernement d'Israël joue la carte du désastre. Ces apprentis sorciers pensent que des troubles généralisés justifieraient un transfert des Palestiniens et permettraient à Israël de se présenter comme un agressé en état de légitime défense.
Voilà. Mais une forme d'apartheid règne-t-elle entre le Jourdain et la Méditerranée ?
Alors, en fait, le problème est réglé depuis 2020, puisqu'il y a plusieurs associations de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty, qui ont recensé les éléments constitutifs de cet apartheid. Beaucoup d'Israéliens lucides et honnêtes confirment aussi son existence. La politique de séparation et de ségrégation à l'égard des Palestiniens sur une base nationale et raciale a toujours été présente. Et Oslo a paradoxalement permis à ses tenants de continuer à la mener. Donc toute critique de la politique israélienne était considérée comme une tentative d'extrémiste de venir à bout du processus de paix. La ségrégation a toujours été là. Sans cela, je ne vois pas pourquoi les Palestiniens ont été expulsés en 1948.
Alors, on inverse ?
Donc, les Palestiniens, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent encore revendiquer des droits égaux dans un État juif ? Israël a une loi qui dit
c'est l'État,
Israël est l'État du peuple juif.
les Palestiniens doivent revendiquer leurs droits nationaux. Mais cette revendication est très compliquée en une période où l'État n'arrive pas à émerger. Je ne dis jamais définitivement perdu. Ça n'existe pas en histoire. Les Palestiniens doivent donc se battre simultanément pour obtenir ce que j'appellerais l'égalité des droits du citoyen dans un État binational. Cela pose une autre question, cruciale à mes yeux. Se battre, oui, mais est-ce au sein de l'État juif ou de l'État d'Israël? Israël est un pays où près de 80% des citoyens se revendiquent de religion juive. Mais il y a une minorité qui ne l'est pas. Nos frères en Galilée, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ont un passeport israélien. Les Israéliens juifs doivent commencer à comprendre qu'ils disent « nous sommes Israéliens ». Ça signifie qu'il y a de la place pour d'autres qu'eux au sein de cet État. S'ils décident qu'ils sont seulement juifs, ils doivent alors prendre conscience qu'ils sont engagés dans la voie du transfert. Mais tu vois, dans les manifestations qu'on a vues là, des civils contre la Cour suprême, il aurait pu y avoir de tels slogans, tous unis, dans un État commun. Ça n'a jamais émergé. C'est nous d'abord, et Abba Netanyahou, mais il n'y a pas eu de rapprochement dans les banderoles des gens qui disaient « oui, pour un État fédéral pacifique, enfin, et uni ».
Mais tout à l'heure, précédemment, Sambar, il disait par rapport à Israël, en fait, aujourd'hui, il y a quand même un fait, c'est que les Juifs en Israël ont tous les droits, les Palestiniens, je parle en Israël, dans le pays lui-même, en ont quelques-uns, mais pas tous. Et en définitive, on a quelque chose qui consiste à dire, finalement, nous, on a des droits, les autres n'en ont pas, mais les seuls qui peuvent faire quelque chose, c'est l'étranger. On n'a jamais vu quelqu'un qui avait des avantages les laisser tomber spontanément. Donc ça veut dire que, alors Sambar le disait, il faut que les pays occidentaux commencent à appliquer des sanctions à Israël, mais il n'y a que ça qui pourrait avoir un effet sur justement cette ségrégation, cet apartheid, parce que personne ne laisse tomber ses avantages, ses privilèges, sans y être forcé d'une façon ou d'une autre. Et qui peut le forcer? C'est l'ONU, c'est...
Oui, mais
l'ONU, Jean-Yves, c'est pas très efficace.
Jean-Yves, tu sais très bien qu'Israël n'accepte jamais, jamais de contrôle de force de l'ONU, des Nations Unies sur son terrain.
Quand je parle de sanctions, je parle vraiment de sanctions, c'est-à-dire sanctions économiques, un peu comme on a fait avec la Russie, finalement.
Non, mais moi, je parle de l'État fédéral. Une fois que cet État fédéral est constitué, déjà, il faut regarder si les élections sont justes. Après, s'il y a un apartheid qui est... connu de personne et revendiqué que par noté que par ceux qui en sont les victimes, il faut qu'il y ait des témoins qui viennent voir si c'est vrai ou pas. Et Israël n'acceptera jamais, même dans un État fédéral. Parce qu'un État fédéral, ça veut dire, on se met autour d'une table, on dit, comme aux États-Unis, la guerre de sécession est finie, voilà comment on distribue les choses et on fait la paix. Là, moi, je crains que ça soit la guerre de sécession, mais pendant 3 siècles.
Donc, si on t'écoute, la seule solution, c'est alors qu'effectivement, Israël expulse les Palestiniens.
Non. L'histoire de maintenir le concept de deux États, moi, me paraît fondamental, même si à un moment, il faut l'abandonner, mais le concept me paraît indispensable même s'il faut le lâcher au bout d'un moment pour dire, bon, maintenant, on fait autrement, mais on fait autrement dans la sérénité et dans l'égalité. Voilà. Parce que sinon...
Le problème des réfugiés n'est toujours pas réglé, là aussi. Hein. C'est quand même un problème.
Absolument.
La Nakba, quelqu'un qui a dit, c'est la faute originelle d'Israël. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas cette faute originelle, de toute façon, on ne pourra rien faire. Il faudrait au moins qu'ils reconnaissent qu'ils ont expulsé des gens, que ces gens-là ont subi des problèmes à cause de ça, et que donc, il faut les indemniser, soit les faire revenir, soit les indemniser, leur permettre de vivre comme il faut à partir de maintenant.
C'est toi la question.
Comment réagissez-vous aux manifestations d'Israéliens contre le gouvernement le plus à droite de leur histoire, hein ?
Et Elias Samba répond, la crise actuelle pose aussi aux Israéliens la question de leur propre identité. Ce n'est pas une question strictement palestinienne. Il est temps que les Israéliens s'interrogent sur l'État dans lequel ils veulent vivre. Un État israélien avec des citoyens juifs et non-juifs ou un État exclusivement juif. Il faut poser cette question à l'immense mouvement démocratique qui, une fois par semaine, défile dans les rues pour contester la réforme de la justice ou le coup d'État du gouvernement. Leurs adversaires qui sont aujourd'hui au pouvoir savent, eux, ce qu'ils veulent, un État débarrassé de ses citoyens palestiniens. Tu vois, ils posent exactement la question dont on vient de parler, à savoir si ces gens qui manifestent, ils posent cette question. Eh bien, à mon avis, non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le journal demande, craignez-vous que l'Arabie saoudite normalise bientôt ses relations avec Israël sans regard pour la cause palestinienne ?
J'ai eu une discussion, dit Elias Sambar, avec un diplomate israélien après l'annonce des accords d'Abraham par lesquels Israël a plus ou moins normalisé, à partir de 2020, ses relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Il était fier et arrogant. Il m'a dit « Ça y est, tu vois, vous avez définitivement perdu. Des Arabes vous lâchent, d'autres vont les suivre. » Je lui ai répondu « Vous avez certes gagné beaucoup de choses, vous allez faire un nombre incalculable d'affaires, vous allez jumeler les ports, lancer des pipelines, ainsi de suite. Pas de limite. Mais toi, lui ai-je demandé, tu vas rentrer chez toi, tu as fermé tous les volets de ta maison parce que tu allais être absent un bon moment. Tu rentres si tu es heureux de tes accords d'Abraham. Tu franchis le seuil de ta maison, tu vas dans ton salon et ouvres les volets pour aérer. Qui vas-tu voir dans ton jardin ? Moi. Tu peux faire le tour de la terre autant que tu veux. Chaque fois que tu regarderas ton jardin, c'est moi que tu verras. Nous sommes là, sur ce point, Oslo ou pas Oslo, rien n'a changé.
Je ne partirai pas. C'est ce qu'il dit.
Je ne partirai pas, voilà. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps il nous reste.
Ben, je pense qu'on est à la fin, là. Alors, une minute, je peux dire, il y a eu une nouvelle étude de Save the Children qui révèle les abus dont sont victimes les enfants palestiniens détenus par l'armée israélienne. Israël a rabaissé encore l'âge à partir duquel ils peuvent emprisonner des enfants. Hein. Les enfants palestiniens détenus par l'armée israélienne sont victimes de violences physiques et psychologiques. 86% d'entre eux sont battus, 69% sont soumis à des fouilles à nu. La moitié d'entre eux, ou presque 42%, sont blessés au moment de leur arrestation par balles ou fractures. Certains font état de violences à caractère sexuel et d'autres sont transférés au tribunal ou entre centres de détention dans des petites cages. On estime qu'entre 500 et 1000 enfants sont détenus par l'armée israélienne chaque année. Voilà, ça me paraît important de le dire. On va les arrêter en pleine nuit, on démolit la porte, on réveille tout le monde. Les enfants sont emmenés. Enfin,
voilà, merci Jean-Yves.
Alors merci Bernard.
Et au mois prochain. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir Jean-Yves.